Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 22e de la saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Nicolas Sainte-Cluc.
Bonjour.
Alors vous êtes, entre autres choses, puisque vous avez plusieurs casquettes, mais on va se concentrer, je pense, essentiellement sur votre casquette de porte-parole de l'association J'aime Narbonne. Puis vous êtes également porte-parole du groupe municipal d'opposition, mais on verra que finalement les deux choses sont probablement assez liées. Vous êtes également depuis près d'un an conseiller départemental, chargé entre autres des énergies nouvelles, et ça forcément on en dira un petit mot aussi. Cela se passant, comme c'est l'habitude maintenant, dans ce Radio Barque en troisième partie, rappelant aussi que si M. Sainte-Cluc veut donner son point de vue de temps en temps sur les sujets que nous évoquons avec Michel, vous êtes le bienvenu. Le sommaire, le voici. Nous commencerons, Michel, par un sujet national, l'éviction du ministère de la Culture de Fleur Pellerin, qui est un petit peu navré, semble-t-il.
Oui.
Après quoi, nous évoquerons, nous revenons tout de suite sur la Narbonnaise avec les métamorphoses de Didier Mouly, du maire Didier Mouly, des métamorphoses assez surprenantes, même parfois, il faut le dire, fort amusantes. En deuxième partie, nos élus n'aiment pas les comptables. Ça, c'est un article que tu as fait dans ton blog, Michel, qui a apparemment bien marché,
oui,
également, a intéressé les gens. Et puis nous terminerons par le groupe Riquet. Alors je laisse le suspense planer. Qu'est-ce que c'est, une nouvelle maçonnerie, ce groupe Riquet,
un
truc secret? Bon, enfin, on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Mais pour commencer, Fleur Pellerin n'est plus ministre de la Culture et tu sembles le regretter, Michel.
Oui, alors ce que je regrette pour la personne, évidemment, mais j'en dirai deux mots, mais je vais surtout commencer par ce que ce limogeage, cette mise hors du circuit de la vie politique nationale, en tout cas bon, du mouvement environnemental de Fleur Pellerin, m'a inspiré, c'est que ce licenciement dévoilait d'une certaine manière la réalité de ce ministère et de sa fonction. Et je commence d'entrée de jeu mon billet d'ailleurs sur mon blog en disant « Mais ce ministère de la Culture et de la Communication ne sert à rien ».
Oui. Et apparemment, d'ailleurs, elle a été traitée d'une façon assez olé-olé, oui, hein, sur son licenciement.
Alors que je précise quand même, hein, il ne sert à rien. Pour quelle raison? Parce qu'il faut que les auditeurs de Radio Barque sachent que le rôle de ministre de la Culture, c'est quasiment chaque année de reconduire, en fait, avec une augmentation moyenne de 1%, des dotations qui sont allouées à une centaine d'établissements publics et de grandes écoles d'ailleurs, qui pour 80% d'entre elles sont situées en région parisienne.
Oui,
l'Opéra, par exemple, de Paris.
Oui, oui. Hein? Donc finalement, c'est un travail de comptabilité, guère plus.
Sur un budget, bon, pour que les gens se rendent compte, hein, sur un budget de 7,3 milliards d'euros, 80% de ce budget est consacré à financer ces établissements.
Oui.
Ce qui veut dire,
comme tu le fais remarquer, qui non seulement rassemble finalement un nombre assez restreint de personnes et d'intéressés, mais qui géographiquement sont
situés sur Paris.
Et
je précise, pour donner des chiffres, là encore, que la moitié de ces 7 milliards sont réservés à l'industrie de l'audiovisuel.
Oui, aussi.
Aussi.
Comme si en France...
Qui n'est pas, elle non plus, située, bon, dans les provinces.
Ah ben, il y a belle lurette depuis Marcel Pagnol qu'on ne tourne plus de films en Provence.
Ce qui veut dire que la marge de manœuvre réelle de ministre de la Culture et de la Communication dans ce pays est de 1,3 milliard, ce qui correspond, en gros, au budget moyen de la métropole de Toulouse. C'est-à-dire que ça représente pratiquement
rien. Oui, peanuts, comme on
dit.
Alors...
Et pour faire ce boulot-là, quoi, hein, majorer de 1% le budget chaque année, c'est pas la peine d'avoir effectivement un ministre. Alors, quelle est la fonction réelle d'un ministre et que n'a pas compris visiblement Fleur Pellerin?
Elle avait une autre conception, semble-t-il.
Et qui pourtant lui avait été dessiné de manière un peu vulgaire, certes, mais je vais citer les propos de Monsieur Hollande, les propos de ça, et de Monsieur Valls réunis.
Oui, parce qu'ils sont intéressants.
Le jour même, effectivement, où elle a été promue. Vois Jacques Lang, dit Manuel Valls, Et François Hollande rajoute derrière.
Ah oui, parce que Jacques Lang, rappelons-le, en France, c'est the ministre.
Ah, c'est l'icône de la culture, en fait. D'une certaine culture. Chacun peut apprécier ou pas, mais peu importe. En tout cas, bon, c'est une icône, en tout cas, dans ce monde de la culture.
Il a marqué.
Il est intouchable.
Il a marqué.
Donc, voit Jacques Lang, il a des idées. Quelles sont ses idées? Deux points, je cite. Va au spectacle, tous les soirs. Il faut que tu te tapes ça. C'est pas moi qui parle.
Oui, oui, c'est Hollande qui dit.
Tu dis que c'est bien et que c'est beau. Hein, voilà. Elle n'avait pas compris qu'effectivement, sa feuille de route, c'était cela. De plus, Fleur Pellerin avait le profil social et intellectuel parfait pour faire effectivement ce métier-là. Et sur cette feuille
de route donnée par Hollande, par son origine.
Un enfant trouvé dans les rues, dans un bidonville de Séoul, adopté par des parents modestes, dont des générations étaient maçons, en fait. Et
quel exemple modestes, d'ascension sociale, et qui, seulement ça a mal fini.
Qui, à l'évidence, est le pur produit de ce que l'école républicaine est capable de produire, comme du peuple, venant du peuple. Hein, une fille extraordinaire. Sauf que, là aussi, dans sa manière d'être et dans son style vestimentaire, elle avait décidé de ne pas porter en épinglette, effectivement, cette histoire-là. Comme si, à l'époque, on en demandait à des grands intellectuels, voire même des grands bourgeois du Parti communiste, d'aller se balader dans des salons parisiens avec un bleu de chauffe. Non, ils y allaient effectivement habillés. D'ailleurs, mon père, entre parenthèses, quand il se rendait à des meetings du Parti communiste français, c'est une confidence que je fais au passage, il s'habillait, il revêtait un costume,
il s'endimanchait,
une cravate, il s'embourgeoisait.
Donc
dans ce milieu parisien, effectivement, Fleur Pellerin, avec son style, effectivement, c'était la petite bourgeoise, bon, un peu trop coincée, quoi. Donc, elle n'était pas suffisamment, comment dirais-je, fun, pour reprendre l'expression typique de ce milieu. Hein. Et c'est ça que, bon, Fleur Pellerin paye d'une certaine manière, et que je trouve particulièrement, pas grave, mais en tout cas, bon, mesquin, petit, et en même temps préjudiciable, en tout cas à moi, ce que je me fais comme idée de la culture et de ce qu'elle devait être faite. Alors, pour que les gens sachent quand même, quoi, hein, les choses, hein, la culture ne se résume pas, en fait, au mystère de la culture.
Hein. Oui, bah, Dieu merci, parce que ça voudrait dire que la culture en France, c'est 80% à Paris, puis le reste, rien.
Non, mais plus profondément, on laisse croire, effectivement, aux Français, fait que la culture, c'est le ministère de la culture. Non, la culture, elle se fait, elle s'apprend, et elle se construit à l'école, d'abord. C'est d'abord là qu'effectivement, on devrait, effectivement, susciter le goût de la culture, des grands auteurs notamment, mais aussi de la culture scientifique et technique, qui est aujourd'hui méprisée dans notre pays. Donc, voilà pourquoi j'ai utilisé cette petite affaire-là, bon, qui peut paraître bénigne, pour dire ce que révèle ce limogeage de ce qu'est aujourd'hui la gestion de la culture dans nos pays par nos gouvernements, et qui me semble particulièrement voué simplement à flatter un petit milieu, et à être au cœur de la société dite du spectacle et de la nourrir.
Pour conclure, envoyer quelques fleurs à l'ancienne ministre.
Pour faire une boutade, on pourrait dire aussi que la fleur s'est fanée, elle a été remplacée.
Voilà, et elle a été jetée à la
jolie
poubelle d'une certaine façon. Alors passons, revenons au chapitre Narbonnais, avec, pareil, un blog que tu as fait dans la semaine qui t'a beaucoup inspiré, ce sont ce que tu as intitulé, Michel, « Les métamorphoses de Didier Mouly ».
Oui. Nos auditeurs le savent peut-être pas non plus, mais nos élus, c'est normal, quoi, hein, investissent de plus en plus les réseaux dits sociaux, notamment Facebook. Et le maire de Narbonne est un fan de Facebook.
Semble-t-il, oui.
Et je note qu'il se fait prendre souvent en photo dans n'importe quelle circonstance et n'importe quel lieu, d'ailleurs, avec un petit commentaire. Et là, je tombe sur Facebook, donc, sur une photo de lui qui en compagnie du couple Sorel, voilà. Philippe Sorel et Madame Sorel.
Venu au match France-Irlande.
Qui était venu au match France-Irlande,
pourquoi
au parc
pas,
des sports et de
pas,
l'amitié, bon, de circonstances en l'espèce.
Fort bien.
Ce qui en soi n'est pas un problème.
Sauf,
quoi,
que,
hein. sauf que là, bon, cette photo est assortie d'un petit commentaire qui, forcément, quand nos auditeurs vont l'entendre, est un commentaire politique évident, en tout cas, bon, clairement politique, si, et même s'il est fait de sous-entendu. Je cite, deux points. « Narbonne n'est pas isolée », dit Didier Mouly.
Oui.
Hein. « Votre mère n'est pas seule ». Et ce, quand même, quelques semaines après avoir retirer sa délégation.
À la méthode Fleur Pellerin.
À la méthode Fleur Pellerin. À Monsieur Aurit, un de ses élus, oui. Hein, qui pour avait eu le, qui avait eu le,
l'outrecuidance.
L'outrecuidance. Hein, de candidater sur la liste de ce Monsieur Sorel.
Voilà.
Au dernier régional. Mais tout en gardant quand même, je le rappelle à nos auditeurs, son sixième adjoint en poste, qui lui était parti à la conquête du Parti des Républicains dans l'Aude.
Geste éminemment plus politique.
Oui, mais pour Didier Mouy, apparemment, n'a pas la même vision de conception de la politique que nous avons,
en l'espèce. Oui, ça semble fonctionner à géométrie variable si on devait résumer, dans l'incohérence totale, disons.
Alors, si on devait résumer, on dirait, bon, Nouveau Narbonne est un parti, donc, apolitique, hein. Mais son leader, Didier Mouly, brigue tout le mandat qui passe, je ne vais pas la faire la liste, hein, depuis son élection à la mairie de Narbonne, et se fait systématiquement rétamer.
Oui.
Conséquemment, il se retrouve, là par contre, alors qu'il prétend le contraire, totalement isolé, dans la Narbonnaise, dans le département.
De par ses propres méthodes.
Et dans la région. Et il vire quand même un de ses colistiers, estampillé Sorel, pour se présenter aux côtés du même président de la métropole de Montpellier, dont il dit qu'avec lui, il n'est pas isolé, effectivement. Comment dire ? Sinon que notre premier magistrat a une conception de la politique qui s'apparente à la définition d'Ambroise Bierce, qui donnait à la philosophie cet Ambroise en question. Deux points, je cite, « une route comportant de nombreuses voies et qui s'étend de nulle part à rien ».
Voilà. De nulle part à rien, nous marquons une pause qui va vous laisser le temps de réfléchir à la signification profonde de cette formule.